J'ai la joie de présenter Mademoiselle Linick, qui est professeure au Studium en théologie morale, qui dirige actuellement le cycle de baccalauréat au Studium. Elle est docteure en théologie, après avoir soutenu une thèse à l'Institut d'études théologiques à Bruxelles sur Veritatis Splendor. Sa thèse était dirigée par le père Chapelle. Nous l'écoutons avec beaucoup d'intérêt sur ce sujet au cœur de notre problématique, la loi naturelle entre controverse et renouveau.
Vous avez dans votre dossier le plan de mon intervention et avec quelques idées force pour vous permettre de suivre plus facilement. Donc cette conférence vous présente quelques aspects du renouveau actuel des études en théologie et en philosophie concernant la loi naturelle. La deuxième partie propose quelques pistes d'études qui s'ouvrent devant nous. Vous avez une feuille avec le plan et donc quelques citations aussi. Ça facilitera l'écoute. Un purgatoire bénéfique. Avant le Concile Vatican II, le magistère, dans son enseignement moral, se référait beaucoup à la loi naturelle. Le Concile lui-même n'a mentionné que très peu cette notion et a préféré un autre langage, celui de la dignité de la personne humaine. Pour beaucoup, ceci était le signe d'un changement, d'une ouverture de l'Église à la réalité du monde moderne. La doctrine de la loi naturelle semblait mise à l'écart et enfin dépassée comme étant trop étriquée. Or, dès 1968, avec Humanae Vitae et ensuite dans d'autres documents, le magistère est revenu à la doctrine de la loi naturelle dans le cadre de la morale chrétienne. Est-ce un rejet de l'enseignement conciliaire ou bien est-ce une mise au point de ce même enseignement ? Le retour du magistère à la doctrine de la loi naturelle a été rejeté par beaucoup. Ainsi, dans les années post-conciliaires, la loi naturelle est passée, selon les mots du père Bonino, par une sorte de purgatoire. Or, ce purgatoire, finalement, semble lui avoir été bénéfique. Car aujourd'hui, dans de nombreux travaux de théologiens, cette notion contestée renaît de ses cendres et suscite à nouveau de l'intérêt. Un renouveau initié. D'où vient ce renouveau actuel? Il vient en grande partie d'une impulsion explicite des papes Jean-Paul II et Benoît XVI. Jean-Paul II lui-même a approfondi la doctrine de la loi naturelle dans une perspective personnaliste. On peut mentionner tout son enseignement aux morales sexuelles et familiales. On doit également mentionner l'encyclique Veritatis Splendor de 1993, à laquelle je reviendrai tout à l'heure. Sous le pontificat de Jean-Paul II, en 2004, Josef Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a demandé à la Commission théologique internationale de prendre le thème de la loi naturelle comme sujet d'étude du quinquennat de 2004-2009. Les travaux de la Commission ont abouti à un document voté le 1er décembre 2008 et approuvé le 27 mars 2009. Il a été publié sous le titre « À la recherche d'une éthique universelle, nouveau regard sur la loi naturelle ». C'est le livre que le père Rousseau a dans ses mains, je crois. Voilà. La même demande d'étudier la loi naturelle a été faite aux universités et facultés de théologie. Le 5 novembre 2004, le cardinal Ratzinger a écrit à 34 centres universitaires du monde entier pour qu'ils organisent des colloques sur la loi naturelle afin de promouvoir un renouveau constructif et efficace de cette doctrine pour la vie de l'homme et de la société aujourd'hui. Pourquoi cette demande ? Il dit, je le cite, « L'on est en train de mettre sur pied une dictature du relativisme qui ne reconnaît rien comme définitif et qui donne comme mesure ultime uniquement son propre ego et ses désirs. » Et Ratzinger explicite un peu plus tard que cette dictature du relativisme aboutit nécessairement à la domination de la force et du pouvoir totalitaire. Voilà l'enjeu de la question de la loi naturelle aux yeux de Ratzinger, devenu Benoît XVI. Et voilà pourquoi il revient à une réflexion sur la loi naturelle tout au long de son pontificat. plusieurs universités ont effectivement répondu à la demande de Ratzinger et organisé des colloques sous la loi naturelle et en ont publié des actes. Par exemple, l'université San Damaso de Madrid en novembre 2006, la faculté de théologie de Milan en 2007, l'université du Latran en 2007, où le pape Benoît XVI a fait un discours remarqué. En France, l'Association des théologiens pour l'étude de la morale, ATHEM, a organisé un colloque en 2009 pour honorer la sortie du document de la Commission théologique internationale. D'autres travaux interdisciplinaires sur la loi naturelle ont été publiés, par exemple en Angleterre. Si on regarde les publications aujourd'hui, on peut constater que l'intérêt pour la loi naturelle reste constant. Et cela dans différents domaines, par exemple en droit, en philosophie, en morale concernant les nouvelles questions de société. L'étude se fait aussi dans d'autres religions, le judaïsme et l'islam. Et plusieurs publications ont vu le jour aux États-Unis, car certaines études y sont explicitement liées à un renouveau des études sur saint Thomas d'Aquin. En effet, la remise en lumière de la loi naturelle qu'on peut voir aujourd'hui se fait sur plusieurs lignes de réflexion différentes. Le père Bonino en présente trois tendances qui ne sont pas complètement séparées les unes des autres, mais qui s'inspirent mutuellement. C'est ma première partie, un renouveau avec trois lignes de force. Le premier point, la nouvelle théorie de la loi naturelle. La première tendance veut intégrer la doctrine traditionnelle de la loi naturelle dans une pensée moderne de l'autonomie. C'est le cas de la nouvelle théorie de la loi naturelle ou nouvelle théorie des biens humains fondamentaux de Finis et de Charmin Grisé aux États-Unis. Vous avez deux publications sur votre feuille qui sont un peu des textes importants de cette doctrine morale. Ce n'est pas parce qu'une chose est qu'il faut qu'elle soit. On ne peut pas tirer un devoir moral de l'être lui-même, disait David Hume. Pour éviter cette difficulté, la nouvelle théorie des biens humains fondamentaux essaye de repenser la loi naturelle sans fondement métaphysique. Comment l'homme discerne-t-il le bien à faire et le mal à éviter? Selon cette théorie, tout homme, à partir de son expérience, reconnaît qu'il est incliné naturellement vers 8 catégories de biens humains. Ils sont nommés fondamentaux parce qu'ils ne sont pas dérivables les uns des autres et qu'ils ne sont pas l'un le moyen pour obtenir l'autre. Par exemple, la vie, la connaissance, le mariage, l'amitié. Ces biens, selon eux, n'ont pas de caractère moral. C'est-à-dire, ce sont simplement des biens physiques qui correspondent à mon être. Mais leur recherche n'est pas obligatoire. Spontanément, je recherche la santé, mais cette inclination naturelle n'est pas un impératif moral. La moralité vient par la raison qui me dit « Aime et fais le bien, évite le mal » en vue de l'accomplissement de l'homme sur terre. Du coup, ma recherche de la santé devient une action voulue, libre et responsable, orientée vers la réalisation de soi. Ce principe de moralité énoncé par la raison est purement formel dans cette théorie, c'est-à-dire il n'a pas de contenu déterminé, il ne me dit pas concrètement en quoi consiste le bien à faire et le mal à éviter. Le contenu vient des inclinations naturelles. Inclination naturelle et l'impératif moral sont liés, car la raison saisit spontanément ces biens indiqués par les inclinations. Et les inclinations, quant à elles, vont activer l'impératif moral qui, sans elles, reste dans un état virtuel. Si je ne suis pas saisi par un bien fondamental en face de moi, la raison ne me dit pas « fais le bien, évite le mal ». Ainsi, le caractère obligatoire de l'impératif moral vient formellement du premier principe de moralité, « je dois chercher le bien et éviter le mal », grâce à mon orientation vers ma fin d'homme, mais il tire sa force d'attraction concrète des biens fondamentaux, la santé, la vie, matière. Dans cette théorie, la loi naturelle qui est l'inscription dans l'homme du bien à faire et du mal à éviter est donc naturelle, parce qu'elle est connue par la raison de façon spontanée et parce qu'elle saisit spontanément les biens fondamentaux indiqués par les inclinations naturelles. C'est une présentation un peu trop rapide de cette nouvelle théorie des biens humains fondamentaux. Or, on peut se poser la question, n'est-ce pas une compréhension encore trop unilatéralement rationaliste de la loi naturelle ? Car dans cette théorie qui sépare un domaine prémoral et un domaine moral, la moralité est réduite à un principe formel sans contenu moral spécifique. Mais comment alors comprendre l'unité de l'homme ? Unité entre sa dimension corporelle et sa dimension rationnelle, unité entre la personne et ses actes. Comment fonder l'obligation de la loi morale ? L'expérience le montre, même l'accomplissement de l'homme sur terre, même son autonomie ou sa béatitude terrestre, ne permettent pas de fonder une obligation morale solide. Pourquoi dois-je aller vers mon propre accomplissement sur terre ? C.S. Lewis a écrit, je cite, « Si rien n'est obligatoire en soi, alors rien n'est obligatoire du tout. » Alors, est-ce qu'on peut dire que le « moi » est obligatoire en soi ? Si ce n'est pas le cas, où est le fondement de l'obligation ? En 2000, a eu lieu un colloque sur saint Thomas d'Aquin et la tradition de la loi naturelle organisée par le grand séminaire de Détroit et une faculté de Troyes dans l'État de Michigan aux États-Unis. Les actes du colloque montrent les vives controverses autour de la loi naturelle suscitées par l'interprétation de la pensée de saint Thomas d'Aquin proposée par cette nouvelle théorie. Certains théologiens contestent le caractère thomiste de cette théorie. Pour d'autres, elle a le mérite d'avoir donné une impulsion nouvelle aux études de la loi naturelle dans la ligne de la pensée de saint Thomas. Deuxième point. Controverse et nouveau départ parmi les thomistes. Nous voilà à la deuxième tendance selon le père Benigno. Les discussions autour de la loi naturelle selon saint Thomas et la confrontation avec le monde moderne ont suscité d'autres études pour sortir des présupposés trop étriqués de la théologie morale, de la théologie des manuels, pardon, dans lesquels la pensée de saint Thomas a été parfois enfermée. Une étude peut être soulignée en particulier, celle de Jean Porter, que vous avez sur la feuille, qui essaye de renouer un dialogue entre la pensée de saint Thomas, bien située dans son contexte historique, et des philosophes et théologiens contemporains, notamment la nouvelle théorie des biens humains fondamentaux. Puisque cette dernière méconnaît la signification morale de la dimension corporelle de l'homme, Jean Porter veut y apporter un rééquilibrage. Je vais la présenter un tout petit peu. Elle développe une théorie de la loi naturelle qui reconnaît une signification morale des dimensions pré-rationnelles de l'homme, sans nier l'importance centrale de la raison pour la réflexion et la pratique morale. Porter étudie la nature comme nature, les inclinations naturelles, et ensuite la nature comme raison. L'une en lien avec l'autre et toutes deux orientant l'homme vers sa fin. Cette fin est comprise comme un authentique bonheur terrestre, imparfait certes au regard de la béatitude surnaturelle, mais non moins réelle. Le lien entre ces deux dimensions de l'homme est assuré par les vertus. Ainsi, la loi naturelle ne se réduit ni à la dimension physique ou biologique de l'homme, ni non plus à un pur formalisme rationnel, mais elle signifie le lien entre la nature comme nature et la nature comme raison. C'est une tentative intéressante de rendre raison de l'unité intérieure de l'homme. Le même mot « nature » intègre une dimension naturelle et une dimension rationnelle. Cependant, certains théologiens reprochent à l'auteur d'insister trop unilatéralement sur les vertus et de penser la loi naturelle sans une référence explicite à Dieu. N'est-ce pas enlever à la loi naturelle son caractère de loi ? Si on met entre parenthèses la fin ultime de l'homme et une authentique hiérarchie des biens, comment peut-on encore justifier des normes valables toujours et pour tous de façon absolue ? N'est-ce pas au nom de cette idée du bien-être, qui finalise et règle les actes moraux de l'homme, selon Porter, que certains aujourd'hui revendiquent des lois, concernant l'euthanasie par exemple, qui en même temps abolissent cette béatitude terrestre. Cette contradiction n'est-elle pas le signe qu'il faut un cadre plus large pour penser la loi naturelle et que la vie humaine dans sa dimension terrestre ne peut être seule le critère pour indiquer le bien ? On peut ajouter aussi que cette conception ne suffit pas à sortir la loi naturelle d'une conception par trop individualiste de l'homme. Le philosophe allemand Robert Spemann a montré que l'homme agit non seulement en sachant le but de son action, mais en se situant lui-même dans l'ensemble de la réalité des personnes et de l'ordre du bien. Dans une même situation, les devoirs moraux des personnes sont différents selon la place qui occupe chaque personne. On peut penser à l'exemple d'un enfant malade avec une maladie très contagieuse. La mère de l'enfant devra donner des soins à son enfant, même s'il y a un risque de contagion. Par contre, les autres frères et sœurs ne devront pas s'approcher pour ne pas se mettre en danger ni mettre en danger d'autres personnes. De la même façon, la réflexion sur la loi naturelle doit sortir d'un cadre qui pense en termes d'individus seulement. Elle doit tenir compte de la réalité relationnelle et sociale de l'homme. Et ainsi, nous sommes amenés à reposer les questions fondamentales. Qu'est-ce que l'homme ? Quels sont ses rapports avec les autres et avec Dieu ? La troisième ligne de force dans le renouveau de la loi naturelle s'attache précisément à ces questions des relations et aussi aux questions de l'unité de l'être humain. Le troisième point, une conception personnaliste de la doctrine de la loi naturelle. Le père Bonino renvoie à l'école de Jean-Paul II pour cette troisième ligne. En effet, dans les écrits de Jean-Paul II, mais aussi dans ceux de Joseph Ratzinger et de Benoît XVI, il y a des points d'appui pour élaborer une vue plus unifiée et plus large de la loi naturelle par rapport à ce que nous avons évoqué jusqu'à maintenant. De nombreux théologiens s'en inspirent aujourd'hui et développent les perspectives ainsi ouvertes. Dans cette ligne de renouveau, l'Écriture sainte prend une place de plus en plus importante. Malheureusement, nous ne pouvons pas déployer cet aspect dans le cadre de cette communication. Je vous propose seulement quelques aspects significatifs pour le renouvellement de la loi naturelle qui me paraissent prometteurs pour l'avenir. Comme pour la première partie, je n'ai pas la prétention de faire un relevé exhaustif de tous les aspects qui pourraient entrer en jeu. Je me limite à certains points que voici. Des précisions concernant les défis qui se posent aux théologiens aujourd'hui, l'étude de l'autonomie de l'homme et une avancée importante de Veritatis Splendor. Donc c'est ma deuxième partie. Des pistes de réflexion à partir d'une pensée personnaliste. Quel défi à relever ? Dans un seul et même dictionnaire sur la toile, accessible au grand public, vous pouvez trouver presque 30 définitions différentes du mot « nature ». Cela va de « ensemble de tous les êtres qui composent l'univers » jusqu'à la « côtelette nature », c'est-à-dire préparée sans sauce, sans après. En philosophie, la notion de nature n'est pas univoque non plus, et cette équivocité se répercute sur la loi naturelle. Des confusions se trouvent effectivement dans les esprits de nos contemporains où circulent les malentendus différents. Vu à travers la mentalité scientifique actuelle, la loi naturelle est souvent comprise en référence aux lois de la nature, comme on l'a entendu tout à l'heure, donc aux lois que les sciences dégagent. Celles-ci décrivent des régularités, des nécessités observables, vérifiables, exprimables par des formules. Ainsi, la loi naturelle se présente comme une loi biologique ou physique, comme un déterminisme qui s'impose à notre liberté. La loi naturelle serait-elle donc la loi du corps de l'homme, qui a beaucoup de ressemblances et un code génétique très proche de certains animaux ? Ou bien la loi naturelle est comprise comme une loi imposée par Dieu de l'extérieur à l'homme qui fait de lui un être hétéronome, c'est-à-dire déterminé par un autre, en l'occurrence Dieu. Cette loi s'imposerait sans tenir compte de la singularité et de l'histoire propre de chacun. Dieu a voulu le mariage entre l'homme et la femme, il suffirait, avec son bon sens, de lire cette vérité sur son cœur et tout homme devrait pouvoir lire la même chose. Parfois, la loi naturelle est au contraire conçue comme la loi de notre propre esprit subjectif, qui ne doit rien à la dimension corporelle de l'homme ni à une objectivité dépassant l'individu. Je dois faire le bien selon qu'il se présente à moi. Personne d'autre ne peut me dire ce qui est bien pour moi. Dans toutes ces conceptions, le mot nature est souvent opposé à d'autres mots. La nature opposée à la liberté, la nature opposée à la culture, à la personne, à l'histoire, parfois au surnaturel. Le terme « loi » aussi est très souvent compris dans un sens juridique, comme un code fixe gravé sur le marbre de nos cœurs que tous devraient connaître de la même manière. Résultat, pour les uns, et certains les identifient aux catholiques, la loi naturelle serait une sorte de bouclier ou d'arme pour lutter contre la culture actuelle, soit afin de sauver l'humanité de l'homme, soit pour trouver un espace rassurant à l'intérieur de l'Église. D'autres, à l'opposé, pensent que la loi naturelle est une loi à inventer, à créer librement par l'homme. L'homme devrait lui-même définir sa propre condition sur Terre. Parfois, la première position est qualifiée de fondamentalisme, la deuxième de libéralisme. Voici donc le défi qui se pose à nous aujourd'hui. Peut-on garder encore la doctrine de la loi naturelle sans tomber dans des excès qui finalement ne peuvent pas sauvegarder la dignité de l'homme? Comment penser la loi naturelle de l'homme avec sa liberté et son autonomie pour donner un fondement solide à la vie en société dans le pluralisme culturel et religieux actuel? L'homme, un être autonome. L'encyclique Veritatis Splendor de Jean-Paul II, publiée en 1993, a fait des avancées qui commencent à inspirer les théologiens. Dans la deuxième partie de l'encyclique, le pape propose une réflexion systématique qui approfondit progressivement la compréhension de la loi naturelle. Une première étape approfondit la notion d'autonomie. L'autonomie est parfois comprise comme une absolue souveraineté de la raison humaine. Il n'y aurait rien au-dessus de ma raison qui pourrait corriger ou mesurer la connaissance que j'ai du bien. Or, Veritatis Splendor met en lumière que l'autonomie de l'homme lui est donnée, et donnée pour son agir libre. Personne ne s'est inventé soi-même, on l'a entendu tout à l'heure. Notre vie et notre humanité nous ont été données. Autrement dit, et avec les mots de la Révélation, nous avons été créés. C'est dans l'acte de création que l'homme reçoit ce don d'être autonome. À la base de l'autonomie, il y a donc la reconnaissance du don de ce que nous sommes comme êtres humains. Ainsi, la raison humaine ne peut pas être un souverain absolu puisqu'elle est d'abord reçue par plus grand qu'elle. C'est pourquoi la compréhension de la loi naturelle comme fondement d'une authentique autonomie de l'homme est étroitement liée à la pensée de la création. C'est ce que soulignent différents théologiens aujourd'hui, c'est aussi ce que nous trouvons dans Verbum Domini de Benoît XVI. Dans cette lumière, l'autonomie, loin d'exiger que l'homme soit indépendant de Dieu, requiert plutôt ce lien de dépendance au Créateur qui fonde la dignité de l'homme autonome. Dit autrement, si l'autonomie signifie avoir sa propre loi, le fait que la loi soit donnée par Dieu n'empêche pas, mais fonde le fait qu'elle soit vraiment mienne et que désormais je doive agir selon elle. L'autonomie de l'homme atteste que le don fait par Dieu est un vrai don sans repentance. Reconnaître d'être créé libre permet dans l'agir la vraie autonomie. L'encyclique propose même l'expression forte de théonomie participée pour qualifier le lien de la loi naturelle avec la loi divine, Veritatis Splendor 41. Parler de participation à la loi divine, c'est montrer la haute dignité de l'homme, autonome parce que dépendant de Dieu. C'est une piste de réflexion à creuser dans l'avenir. Comment, dans le contexte de la pensée philosophique contemporaine, réfléchir sur la participation, sur le lien très particulier que l'homme en tant qu'homme a avec le Créateur? Ce lien est différent des liens que nous pouvons avoir avec les autres hommes qui ne sont pas créateurs, mais seulement pro-créateurs. Dans un contexte où la pensée de Dieu ne va pas de soi, où nous sommes habitués aux fécondations in vitro et à d'autres pratiques qui touchent le début de la vie humaine, il devient urgent d'étudier ces différents liens de dépendance que chaque homme a nécessairement avec les autres hommes et avec celui qui est à l'origine de chacun. Dans ce contexte de l'autonomie, Veritatis Splendor souligne que parler de loi naturelle renvoie d'emblée à la nature qui est propre à l'homme, en référence première à la raison humaine qui promulgue cette loi. Les lois dans les sciences de la nature ne sont des lois qu'analogiquement, parce que le terme « loi » est implicitement lié à la raison. Elle n'indique pas seulement la reconnaissance d'une intelligibilité dans les êtres. L'homme peut connaître la façon dont poussent les arbres, c'est intelligible. Mais elle est elle-même une œuvre de la raison. La loi naturelle est nécessairement la loi d'un être raisonnable. L'homme doit reconnaître et promulguer lui-même sa propre loi en vigueur chez lui. Voilà une mise en lumière de la part active et indispensable du sujet dans la promulgation de la loi naturelle très saluée aujourd'hui. Or, ce premier pas que fait l'encyclique n'est pas encore suffisant pour comprendre la profondeur de la loi naturelle. Même si on suit la pensée de saint Thomas d'Aquin, il y a ici le risque de comprendre la loi naturelle encore de façon réduite. Le mode d'agir propre à l'homme est parfois identifié à un mode seulement rationnel. Ceci a l'inconvénient de ne pas tenir compte d'un autre aspect que saint Thomas pourtant souligne bien. Le mode d'agir propre à l'homme est certes rationnel, mais en étant rationnel, il est aussi libre. Il renvoie aussi au libre arbitre. Or, si cet aspect est oublié, on risque de comprendre la loi naturelle comme une tension entre nature et raison, entre les inclinations naturelles comprises comme des déterminismes infra-rationnels, un peu sur le modèle des instincts animaux, et la raison, qui, elle, promulgue cette loi et fait de l'homme un être autonome. Si, par contre, on intègre à la loi naturelle l'aspect de volonté libre, elle doit d'emblée être pensée comme une loi de liberté. C'est ce que fait le père Albert Chapelle dans un bel article sur la loi naturelle comme loi de liberté. Et je le cite, « La vérité humaine de l'homme est celle d'une créature libre et responsable. Sa liberté créée implique en elle-même sa rationalité éthique et son autonomie spécifique. » Fin de citation. La liberté se trouve d'emblée au fondement de la loi naturelle. Comment une loi naturelle peut-elle être une loi de liberté? Suivons encore l'encyclique Veritatis Splendor pour trouver des lumières intéressantes pour cette question. Donc, troisième point, l'avancée de Veritatis Splendor. Pour dépasser l'opposition entre nature et liberté, l'encyclique dans les numéros 46 à 53 arrive à un sommet dans son enseignement sur la loi naturelle. Selon Paul, saint Paul, la liberté de l'homme se réalise toujours par des actes très concrets et corporels. L'anthropologie biblique et ecclésiale comprend l'homme comme une unité indissociable d'âme et de corps. Il est un de corps et d'âme, dit Gaudium et Spes 14. Dans cette lumière, la loi naturelle n'est pas simplement la loi du corps de l'homme, ni simplement la loi purement formelle de la raison, mais elle est la loi de l'être humain dans l'unité de son âme et de son corps. Veritatis Splendor 48. Comment se fait cette unité? Envers l'état du splendeur 50, nous trouvons une explicitation importante. Vous avez la citation sur la feuille. Je retraduis à partir du latin, parce que les éditions françaises traduisent parfois un peu autrement. Je cite « Maintenant, nous pouvons comprendre le vrai sens de la loi naturelle qui appartient à la nature propre et originelle de l'homme, et pas originale, originelle de l'homme, à la nature précisément de la personne humaine qui est la personne elle-même dans l'unité de l'âme et du corps, dans l'unité précisément de ses inclinations d'ordre à la fois spirituel et biologique et des autres propriétés spécifiques nécessaires à l'obtention de la fin. Nous voulons relever trois aspects de cette citation. Premier aspect, la nature originelle de l'homme. Le texte renvoie premièrement à cette nature originelle, celle qui est sortie des mains du Créateur et qui subsiste toujours dans l'homme malgré les déformations introduites par le péché. L'encyclique au numéro 53 argumente dans le même sens en montrant que Jésus renvoie à l'origine. Et je cite, « Justement, lorsque le contexte social et culturel du temps avait altéré le sens originel et le rôle de certaines normes morales. » Fin de citation. Ici, se fait voir qu'effectivement, c'est le Christ qui nous ouvre une compréhension pleine et profonde de la loi naturelle de l'homme créée à l'image de Dieu. Non seulement le Christ nous enseigne sur l'origine de l'homme, mais surtout, il en est lui-même le principe. Le Christ ayant assumé la nature humaine est le fondement ultime de la loi naturelle, dit Veritatis Splendor 53. Certains théologiens s'engagent aujourd'hui sur cette piste christologique afin d'approfondir la compréhension de la loi naturelle. Deuxième aspect que j'aime relever de la citation de Veritatis Splendor 50, la nature de l'homme est celle de la personne humaine. Veritatis Splendor 50 renvoie à Gaudium et Spes 51, où le mot « personne humaine » est associé au vocabulaire de la nature. Celle-ci est invoquée pour assurer des critères objectifs à l'agir moral de l'homme. Le mot « personne humaine » y est plein de tout ce que la première partie de la Constitution Gaudium et Spes a affirmé concernant la dignité de la personne comme image de Dieu, et dans toutes ses dimensions, dans son être, dans ses relations sociales, dans son agir dans l'histoire, sans oublier la déformation de l'image divine introduite par le péché. Le Concile, en parlant de la personne humaine, n'a donc pas du tout rejeté l'enseignement traditionnel sur la loi naturelle, mais l'a approfondi par une compréhension nouvelle de la dignité de l'homme. Inversement, le retour post-conciliaire du magistère à la loi naturelle n'est pas un rejet de la dignité de la personne humaine, mais un approfondissement. Tous les chapitres de cette première partie de Gaudium et Spes culminent dans un regard sur le Christ, l'homme nouveau qui manifeste en plénitude ce à quoi tout homme est appelé dès l'origine et ce à quoi l'homme ne peut atteindre que dans le Christ. Ainsi, ce n'est pas pour rien que le fondement biblique de la loi naturelle se trouve dans le Nouveau Testament, Romains 1 à 2. Saint Paul regarde l'homme et son histoire à la lumière de l'histoire du salut accompli désormais dans le Christ. Si la loi naturelle est celle de tout homme, sa connaissance doit beaucoup à la révélation biblique, notamment à la révélation du Christ. Ici s'ouvre toute une piste pour la nouvelle évangélisation. Comment la révélation nous aide-t-elle à reconnaître notre propre loi intérieure? Et comment la révélation peut-elle nous aider à faire découvrir cette loi naturelle à ceux qui ne croient pas au Christ? Veritatis Splendor précisément présente le Christ, le Fils de Dieu fait homme, comme étant là, et je cite, la loi vivante et personnelle, Veritatis Splendor 15. Une loi naturelle et divine à la fois, dit le catéchisme, dont le contenu se fait connaître avec toutes ses exigences dans la vie d'amour de Jésus, de la crèche à la croix. Ainsi, la loi naturelle renvoie à ce qui est stable et solide dans l'homme et ce qui est fondé dans l'incarnation du Fils de Dieu. Elle renvoie donc à ce qui est divin, à ce qui est le plus profond dans l'homme. Ne soyons donc pas étonnés que la loi naturelle soit à la fois universellement connaissable, mais parfois aussi avec de si grandes difficultés et de si grandes différences, qu'elle se manifeste partout, mais en même temps soit si difficilement réalisable jusqu'au bout. Finalement, n'est-ce pas le Christ qui nous donne la lumière et la force de vivre selon elle ? Dit autrement, la loi nouvelle nous fait mieux découvrir la loi naturelle et nous donne de vraiment vivre selon elle. Troisième point, la personne, principe d'unité de l'âme et du corps. Le texte de Veritatis Splendor 50 précise le terme « personne humaine ». C'est la personne elle-même dans l'unité de son âme et de son corps. La loi naturelle se comprend ici d'emblée à partir du principe d'unité de la double dimension de l'homme, corporelle et spirituelle. L'unité n'est pas à construire par la raison humaine à partir de données naturelles déterminées, non libres. Cette unité personnelle existe avant même que l'homme n'y réfléchisse avec sa raison. La loi naturelle se réfère d'emblée à ce principe d'unité de l'homme, à la totalité unifiée, dit Veritatis Splendor 50, établie dans l'acte d'exister de la personne. Se pose donc la question, qu'est-ce qu'une personne ? Pour pouvoir unir indissociablement dans un tout singulier l'âme et le corps, sans qu'ainsi ni les aspects universels de la nature humaine, ni les aspects les plus propres à une personne singulière ne soient négligés. Dit autrement, la loi naturelle traduit le fait que chaque homme assume de façon unique et singulière, c'est-à-dire personnellement, la nature humaine commune à tous. Nous pouvons donner quelques indications recueillies auprès de Joseph Ratzinger pour approfondir ce point. Dans un livre de 1973, il donne deux indications et une troisième pour caractériser sa compréhension du concept de personne. Il s'appuie sur la théologie trinitaire et christologique des premiers siècles de l'Église qui a situé le concept de personne davantage au niveau de la relation et de l'existence que dans le registre de la substance, sans qu'il faille rejeter complètement ce dernier. Premier aspect qu'il donne. En Dieu, la personne renvoie à la relativité absolue des trois personnes divines. Si l'homme est une personne aussi, cela veut dire qu'il est un être de relation qui ne peut se trouver que dans l'ouverture et dans le don à l'autre. La loi naturelle doit traduire cet aspect, comme on le voit par exemple dans la règle d'or, quand il s'agit de l'ouverture à nos semblables. Elle le traduit aussi dans une ouverture inévitable à une transcendance qui cependant n'est pas toujours reconnue comme Dieu, et qui se traduit parfois en creux, comme une insatisfaction insurmontable ou une soif de bien inassouvie. Un deuxième aspect chez Ratzinger, ce lien existentiel entre l'homme et un absolu transcendant suppose une conception dynamique de l'homme qui inclut nécessairement son historicité. Ainsi se fait voir que la loi naturelle se fait connaître à l'homme dans son histoire, selon les aléas et les progrès de l'homme dans sa relation à Dieu et aux autres. Comme le disait le père Bouillard, on ne saurait concevoir cette loi naturelle comme un code qui serait uniformément inscrit en tout cœur humain, un ensemble de règles que chacun découvrirait préformées en lui dès l'éveil de sa raison. Elle est bien plutôt la raison elle-même comme pouvoir de discernement du sens des conduites au sein des diverses situations. Fin des citations. Voici le troisième aspect, le dernier. La relativité est souvent confinée dans une relation entre un « je » et un « tu ». Or, selon l'origine trinitaire du concept de personne, il faut voir que cette relation « je-tu » est déjà située dans un « nous » divin. Dans cette ligne, pour l'homme aussi, une piste de réflexion s'avère être prometteuse si on inscrit la relation du « je-tu » dans le « nous » de la communauté humaine et dans le « nous » de la communion avec Dieu. Ceci nous fait sortir d'une vision trop individualiste de l'homme. La loi naturelle est une réalité très personnelle, mais d'emblée aussi sociale et religieuse. Elle dépend des cultures et des différentes façons dont les sociétés vivent et comprennent la vie humaine. Elle dépend aussi des relations que nous entretenons avec Dieu. La loi naturelle personnelle unifie le genre humain, elle soutient le lien d'unité entre les hommes, mais elle unifie aussi l'homme en lui-même. L'unification intérieure de l'homme est exprimée par l'encyclique à travers un exemple. Vous avez la citation sur la feuille. Je cite « L'origine et le fondement du devoir de respecter absolument la vie humaine doivent être cherchés dans la dignité propre à la personne et non pas seulement dans l'inclination naturelle à conserver sa vie physique. » Fin de citation. Les inclinations naturelles de l'homme expriment dans la dimension corporelle la direction dans laquelle l'homme se réalise en tant que personne. Elle participe déjà à l'ordre de la personne. Respecter la vie de la personne implique de ne jamais tuer un être humain innocent, mais peut aussi demander dans tel ou tel cas de donner sa vie par amour du prochain. La vie physique, dans les deux cas, est ordonnée à la dignité de la personne humaine, appelée à se réaliser comme être dedans dans toutes ses dimensions, pas seulement dans sa vie sur terre. Des théologiens commencent à s'engager dans cette ligne de recherche et inscrivent la loi naturelle dans une théologie du don. Il reste 5 minutes, j'arrive à la conclusion. Deux aspects en conclusion. Donc le premier concernant le fondement de l'obligation, le deuxième concernant la connaissance de la loi naturelle. Selon David Hume, le devoir moral n'est pas simplement tiré d'un fait physique, ni même de la présence physique d'une personne. Nous pouvons affirmer maintenant que le fait corporel de l'homme comporte une dimension morale par son lien avec la personne. Or, est-ce à dire que la personne est donc le fondement de l'obligation? Pourquoi, si j'existe, dois-je être et être respecté? La clé biblique pour comprendre le fondement de l'obligation morale donnée dès l'Ancien Testament consiste en ceci. La personne humaine comme être de don renvoie nécessairement au donateur. Le don oblige en vertu de sa propre nature qui est gratuité et amour. Ainsi, dans l'amour interpersonnel se manifeste la vérité fondamentale de l'être humain. Il est un être qui se doit à l'autre, avec un grand et avec un petit a, et qui est don pour l'autre, avec un grand et avec un petit a. L'amour du Créateur a créé un lien qui est un appel à correspondre aux dons reçus. Ce lien d'amour, cet appel à répondre à l'amour reçu, voilà ce dont chaque personne humaine est porteuse et voilà le fondement de l'obligation morale que la loi naturelle nous fait saisir. Dit autrement, l'amour de Dieu pour chacun est le fondement de l'obligation de respecter chaque personne humaine. Aujourd'hui se pose un énorme défi à la théologie. À l'ère des fécondations in vitro et des tentatives de clonage, quand le début de la vie semble marqué surtout par le désir, le pouvoir technique et la domination des uns sur les autres, comment peut-on encore parler et faire comprendre cet amour fondateur de Dieu à l'origine de la vie de chacun? Donc, dernier point, concernant la connaissance de la loi naturelle, un deuxième défi doit être relevé. Comment, si Dieu n'est pas reconnu, ouvrir la raison humaine à la reconnaissance d'une règle morale commune à tous les hommes? Ratzinger propose un chemin qui est certainement à discuter. L'expérience humaine le montre, la rationalité de l'homme ne peut pas se réduire à une rationalité purement fonctionnelle, scientifique et technique. Ratzinger conseille aux non-croyants de vivre comme si Dieu existait, puisque ni l'existence de Dieu, ni sa non-existence ne sont prouvables scientifiquement. Le non-croyant doit toujours reconnaître que peut-être Dieu existe. Cette simple attitude d'ouverture est premièrement rationnelle, car toute la réalité ne peut pas être réduite à ce qui est scientifiquement connaissable. Elle est deuxièmement un premier pas pour connaître la loi naturelle qui est de l'ordre de la personne. Certes, cette reconnaissance de la loi naturelle est un défi, elle ne se fait pas automatiquement, c'est une tâche confiée à la responsabilité personnelle et sociale, et beaucoup d'éléments contribuent ou empêchent sa reconnaissance. Mais c'est le début d'un chemin où la reconnaissance d'un Dieu éventuel évite et le fondamentalisme et le libéralisme, car elle ne conduit pas à la composition d'un catalogue de lois morales, mais à l'existence d'une vérité morale objective qui signifie simplement que la conscience subjective n'est pas la mesure ultime de toute chose. Merci pour votre attention.